Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct à la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature. Au programme, nous allons chroniquer le volume ce soir de Sombre Vision sorti chez Panini Comics. Ce soir, je suis accompagné comme d'habitude de Francis. Bonsoir Francis.
Bonsoir Loïc.
Alors donc on va continuer notre petit test d'émission nouvelle version puisque dans cette émission littérature, comme je viens de l'annoncer, on ne va chroniquer qu'un seul album. Alors pourquoi avec Francis on a voulu partir sur cette méthode un peu différente parce que on se rend compte quand même que on a un peu de retard sur les émissions de littérature, qu'il n'est pas facile de se caler pour enregistrer des émissions en fonction de ceux qui doivent acheter les volumes, de les lire, puis de trouver un créneau d'enregistrement. Donc on a décidé de tester. Donc peut-être que nous allons enregistrer plusieurs émissions à la suite, peut-être pas. Tout dépend du temps qu'on va leur consacrer et puis de l'intérêt qu'on aura pour toutes ces séries. Donc ce soir on s'occupe du volume de Sombre Vision, mais il y a beaucoup d'autres volumes de Star Wars en comics qui sont sortis récemment et pour lesquels nous n'avons pas encore enregistré nos critiques. Comme vous l'avez vu la dernière fois, alors vous nous avez fait des retours sur l'émission qu'on a testée, donc ça vous a plutôt plu. Donc voilà, sans plus attendre, on part en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Et voilà, on y va. Donc pour la critique de ce volume, donc on rappelle que Sombre Vision, une fois n'est pas coutume, c'est une mini-série anthologique pour le coup, puisqu'elle consacre 5 épisodes donc en VO à Dark Vador, vus par différents témoins de la galaxie, donc qui sont tous dessinés et créés par des équipes créatives différentes. Donc pour le premier volume, donc on va forcément, comme c'est une série anthologique, on va devoir détailler chacun des épisodes, comme si on était dans une émission VO, mais évidemment, ces épisodes ont été collectés dans un volume cartonné chez Panini Comics. Donc pour le premier épisode, Denis Sopless qui va écrire, et Paolo Villanelli qui est au dessin. Donc Francis, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de cet épisode ?
Peut-être. Une des choses que tu n'as pas mentionné par rapport à ce projet-là, c'est que à la base, c'était un projet qui était avorté du côté de Marvel. C'était un projet qui était supposé être sous la loupe de Chuck Wendig. Ceux qui se rappellent, c'est qui? C'est l'auteur, entre autres, de la trilogie de romans Riposte. Et il avait aussi fait certains comics, je crois qu'il avait fait la série du Réveil de la Force, entre autres. Et c'est ça, c'est quelqu'un par contre qui est, assez politisé et assez militant du point de vue politique, en politique américaine. Donc c'est ça, il a un peu trop tiré l'élastique et il a fini par se faire mettre dehors de chez Marvel. Idem pour tout ce qui est Star Wars, en fait on ne l'a pas revu non plus, que ce soit chez IDW ou chez Delray pour les romans, etc.
Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, quand même, puisqu'il s'est répandu sur Twitter aussi. Et au final, ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, puisque il n'y avait pas vraiment eu de signe avant-coureur. Si on suit pas son fil d'actu, on ne pouvait pas deviner non plus quelles étaient ses tendances politiques.
Non, effectivement, c'est ça pour quelqu'un de qui n'est pas sur son Twitter, par exemple, ou des choses comme ça. Mais je parle de ça, dans le fond, tout ça pour expliquer le concept de ce concept-là, le Sombre Vision, comme tu disais, dans le fond, la vision que les gens ont de Vador. Et c'est ça, Wendig a été viré, mais ils ont gardé le cap un peu avec les mêmes dates puis tout ça pour le projet. Donc, vous allez voir au niveau de nos critiques un peu plus loin. Mais c'est ça, faut garder en tête que c'est un projet qui, à la base, a eu un problème. important de production, là, mais qu'ils ont gardé le cap avec l'idée. Donc, pour revenir au premier des cinq numéros dont tu parlais, qui est un peu éponyme, hein, c'est le seul qui n'a pas un titre bien à lui, ça s'appelle Sombre Vision, tout simplement. Ben, dans le fond, on est sur une planète, comment dire, en tout cas avec des aliens. Je ne sais pas si Thomas aime leur design, mais on est sur une planète avec assez verdoyante et avec des animaux et... j'ai envie de dire presque dinosaures dans certains cas, on a des oiseaux qui ressemblent à des ptérodactyles. Mais c'est ça, tout à coup, sorti de nulle part, il se crache sur le vaisseau, une boule de feu venue du ciel. Et ce qui sort de cette boule de feu-là, c'est Vador. En fait, il y avait une bataille spatiale, là, évidemment, en très haute atmosphère ou dans l'espace. Et c'est ça, c'est Vador qui est venu se cracher avec son TIE Fighter là, expérimental. Donc, Vador se retrouve rapidement à être la cible d'une créature locale qui est considérée par les locaux comme une espèce de demi-dieu presque, là, une créature mythique, là, vraiment immense, là, on pourrait dire à peu près en termes de taille, on pourrait comparer ça à la bête de Zillow un peu. Hein? Et on a un Vador qui, bon, évidemment, va pas se laisser dévorer comme si de rien n'était, va sortir son sabre, va justement se ramasser dans la gueule de la créature. Ça rappelle un petit peu ce qu'on avait avec Kylo Ren dans une autre série de BD. Hein. Et va tout simplement là, terrasser le fameux monstre et devenir ainsi une espèce de légende locale. On sait, hein, pour le reste de la galaxie, Vador, c'est le gros méchant, mais c'est ça pour ce peuple-là, ben, ça va devenir celui qui les a sauvés, qui a enfin terrassé le monstre là, qui les terrifiait depuis toujours.
Oui, eux, ils savent pas, en fait, ils ont pas de contexte politique par rapport au reste de la galaxie. En tout cas, c'est pas spécifié dans le volume. Donc, eux, ils voient débarquer un étranger qui devient... Alors, moi, je l'avais vu comme... Toi, t'as dit un peu la légende. Mm-hmm. Moi, je le vois un peu comme un super-héros.
Ouais, ouais.
Dans les yeux de l'enfant ou de l'ado qui raconte cette histoire, enfin, qui est témoin de l'histoire. Mm-hmm. Et c'est marrant parce que cette planète, elle me fait tout à fait penser à une planète très Marvel dans le style... Mm-hmm. Qu'on pourrait voir dans les Gardiens de la Galaxie, voire même chez DC Comics, série Green Lantern, etc. On a vraiment quelque chose, on n'est pas complètement dans le Star Wars, mais ça fait du bien parce que ça change aussi un petit peu. Et on inscrit Vador au sein de quelque chose d'un petit peu différent. Et
on sent aussi que c'est un peuple, sans être primitif, c'est pas nécessairement un peuple là, qui voyage dans les étoiles. Ils ont quand même une certaine technologie, mais on n'y voit jamais de vaisseaux ou d'armes à feu, etc.
Non, et d'ailleurs, ils sont plutôt coordonnés avec les animaux, puisque les animaux semblent avoir dans leur cité, enfin dans leur mode de vie, on va dire une place assez importante. Mm-hmm. Parce qu'il y a même des planches où on en voit pas mal quand Vador combat cette immense bestiole. Voilà, les animaux fuient autant que les habitants, finalement. Mm-hmm. Et du coup, justement, Vador va être amené à chevaucher. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur la couverture du volume de Panini Comics. Donc il va chevaucher une sorte de cheval à six pattes. J'ai un doute. Six pattes.
Faudrait que je vérifie. Je sais qu'il y avait quatre yeux. Il y avait deux paires d'yeux.
Il y a quatre yeux, mais je crois qu'il y a six pattes. Mm-hmm. On le voit plus si bien. Et donc voilà, c'est pour rajouter à cette vision un peu, alors c'est pas fantomatique, mais c'est un peu vision d'enfer, Vador sur un cheval. Y a pas, on va le dire quand même, y a pas le comme dans le sur la couverture de bouclier avec le symbole de l'Empire. Ça, c'était vraiment, je pense, une volonté graphique d'attirer le chaland par rapport à la couverture du premier épisode. Mm-hmm. Non, voilà, on reste quand même dans quelque chose de Star Wars, même si Vador utilise un animal, il n'y a pas de bouclier, il n'y a rien, c'est Vador, son sabre laser, et lui-même, et la force.
Exact, exact. On peut parler tout de suite du point de vue visuel, hein. C'est quand même un numéro que j'ai trouvé assez spectaculaire. On est dans de la grosse destruction par le monstre, etc. Donc c'est pas nécessairement toujours évident là, de parfaitement comprendre, faut être attentif un peu à tous les détails, mais j'ai trouvé que ça faisait le travail, autant au niveau dessin que colorisation, là, c'est, moi je trouve ça magnifique.
C'est très dynamique aussi.
Ouais, exact, parce que c'est ça, il y a beaucoup de mouvements, hein, évidemment. Mm. Non, c'est ça, c'est assez réussi pour ce premier numéro-là. J'ai l'impression que c'est probablement, on va en parler plus tard, mais je pense que c'est peut-être le numéro qui exprime le plus c'était quoi l'objectif de cette série-là, là, de Sombre Vision. Mais, et côté scénario, bon ben, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, je dirais?
Ben, malheureusement, il n'y a pas grand-chose.
Un one-shot en termes d'histoire, c'est sûr qu'on peut pas élaborer de quoi d'extrêmement compliqué. Non.
Je crois pas que ce soit l'intention, d'ailleurs.
Non, exact. Mais je trouvais que l'idée était pas mauvaise de présenter le Vador justement comme le sauveur de cette planète-là. Parce qu'on a déjà eu ça comme thème avec l'Empire en général. Alors, on a souvent des gens qui sont dans l'Empire qui disent « Ben moi, c'est l'Empire qui est venu nous délivrer, etc. » Fait que c'est pour ça qu'ils sont devenus Stormtroopers, par exemple. Tandis que là, c'est carrément Vador qui est tout seul le sauveur de la planète, là.
Peut-être pas de la planète, mais en tout cas des habitants de cette ville,
ouais, c'est ça.
Ou de cette région.
Exact. Donc, non, c'est ça. Je peux pas dire que je suis un méga fan non plus là, de Paolo Villanelli. Parce que, c'est ça, comme tu dis, c'est vif, c'est dynamique, etc. Ça l'est peut-être un peu trop en même temps. Là, bon, le scénario s'y prêtait. Là, mais, c'est ça, c'est pas non plus un dessin avec... avec du détail, comment dire, très précis. Là. Donc évidemment, sur l'armure, le casque de Vador, tout ça, ça fait bien. Je serais curieux de voir le même style, mais avec des visages de personnages qu'on connaît. Tu sais, des Luke Leia, Anne, est-ce qu'on les reconnaîtrait avec ce style de dessin-là? Je suis pas certain du tout. Mais,
après, je te trouvais un peu dur quand même sur sur cet a priori, puisque je trouve que les planches... Moi, j'ai trouvé au contraire que les planches étaient très détaillées. Notamment tout ce qui concerne la ville, les paysages.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est travaillé, c'est fourni. Pareil au niveau de la végétation. Et puis finalement, je trouve que la bataille spatiale qui est très très bien dessinée, avec les bonnes proportions.
Oui, c'est vrai, au début, ouais.
Voilà, au début. Ce que je trouve presque un peu plus fouillis, c'est justement c'est Vador en lui-même. J'ai l'impression qu'il le représente un peu comme une ombre. Là où au contraire je trouve que les personnages sont dessinés de manière très précise, etc. Et où Vador, il n'y a pas le même rendu de détail et qu'on est plus sur des il va jouer sur les ombres et puis les reflets de l'armure. Au final, bon, ça marche très bien, hein. Je trouve que c'est très très réussi, mais c'est vraiment, je trouve que ça accentue le côté ombre qui passe, voilà, le côté légende un peu,
ouais, spectre,
légende urbaine, le flou, voilà, spectre, ça fait penser un peu, je dirais, attention, je vais faire une comparaison de l'enfer, dans Smallville, au début, ils appelaient Superman, avant qu'il soit Superman, ils l'appelaient le flou, parce qu'à chaque fois qu'ils le voyaient, en fait, il était dans une vitesse, et du coup, personne n'arrivait à apprécier, on ne voyait qu'un peu une silhouette, et je trouve qu'on a un peu cet a priori-là aussi. Mais vraiment, je trouve que le dessin est très très efficace. Sans doute l'épisode le mieux dessiné des cinq, probablement. Mais voilà. Ben, est-ce que t'as quelque chose à ajouter, Francis, ou est-ce qu'on peut passer
C'est pas sur ce volume-là. Ouais.
D'accord. Donc on va pas noter évidemment les épisodes individuels. On notera l'album en lui-même. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc le deuxième épisode intitulé Inacceptable, donc par toujours Denis Soples, mais avec Brian Level au dessin. Alors vas-y Francis, donc que se passe-t-il dans cet épisode?
Cette fois-ci on est au cœur de l'Empire, contrairement à l'épisode précédent. Donc cette fois-ci on est sur un pont d'observation là, d'un Star Destroyer qui poursuit une bande de rebelles là, dans un U-Wing. Tout est dans le titre, hein, inacceptable, donc l'échec est inacceptable pour l'Empire, surtout quand il est question de Vador. Et cette philosophie-là et cette menace permanente-là, cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête des hauts officiers impériaux, va tout simplement rendre un peu fou le commandant qu'on suit. Je me souviens plus si on a son nom quelque part. Mais bref, on est vraiment dans une vision évidemment, il se fait...
Le lieutenant.
Oui, vas-y.
Tiluk, Tilux.
Et on a aussi un flashback C'est ça, parce que lui a été témoin plus jeune, ça dit quelques années auparavant, de Vador qui avait complètement vidé, tué tout le monde autour d'une table de conférence. Donc, il est resté avec ce traumatisme-là et il sait que si il ne parvient pas à capturer les rebelles, ben, c'est ce qui lui attend. C'est ce qui l'attend. Donc, c'est ça, on a quelqu'un en sueur permanente, en crise un peu de folie là, permanente. Ça va aller jusqu'à poursuivre le U-Wing dans la gueule d'un espèce de ver de l'espace, là, ce qu'on voyait dans l'Empire Contre-Attaque, donc un énorme ver qui sortait d'un astéroïde. Donc, c'est le cas encore ici. Le U-Wing, évidemment, qui n'est pas une grotte, effectivement. Et, bon, le U-Wing est assez petit pour rentrer dans la gueule, mais le Star Destroyer, lui, évidemment, est beaucoup plus gros et ils vont complètement éventrer le ver. Là.
Mais quoi qu'ils arrivent quand même à rentrer dans la gueule sans le tuer. Mm-hmm. Parce que, donc, la largeur de la bouche est quand même assez importante pour contenir le croiseur. Par contre, effectivement, après, pour la sortie, c'est plus difficile.
Mais non, c'est ça, c'est quand même c'est quand même un thème j'ai trouvé original aussi. Puis bon, c'est ça, le U-Wing va finir par réussir à s'enfuir et le Star Destroyer est quand même magané de toute cette course-là. Et bon, plus tard, Vador va arriver devant le survivant qui est le commandant en question et... Ça se termine comme ça. On voit le visage du commandant au travers des le reflet, dans le fond, dans les yeux de Vador, là, dans son masque.
Et puis, il est un peu terrifié, là. Il sait ce qui se passe.
Ouais, ouais, exact. Ouais. Il sait ce qui l'attend. Donc, non, c'est ça. C'est un numéro... je m'attendais pas du tout à ça. Hein. On n'est pas dans le même style que le premier. On peut peut-être encore une fois s'attarder à l'aspect visuel. Il y a une particularité assez particulière, justement, dans ce volume-là. C'est que les planches sont souvent découpées pour donner des formes selon ce qui se passe, justement. Donc, on va avoir une planche en forme de Star Destroyer ou, par exemple, quand ils sont à l'intérieur de l'espèce de verre, là. Parce que je pense qu'il n'y a pas de nom, hein. Cette créature-là, me semble
ça. Mais si, je crois qu'il a un nom, mais il faudrait chercher. Là, ça me vient pas.
Mais c'est ça, évidemment, à un moment donné, ça va être des X-Wing qui remplissent la page, donc les cases vont avoir une forme, là, tu sais, d'hexagone. Fait que c'est un découpage très original, j'ai trouvé que ça faisait dynamique, etc. Ça fitait bien avec le style du dessin, qui est peut-être un petit peu plus caricatural. Par contre, je trouve que ça nous donne l'impression peut-être d'être dans du jeunesse un petit peu plus, ce style-là, qu'on serait dans du Star Wars Adventure, là, chez IDW. Donc, ça n'empêche pas là, d'être quand même un style très intéressant. Puis quand même, assez précis, assez... on comprend très bien ce qui se passe... c'est dynamique, c'est relativement coloré, comme je disais, par contre, peut-être plus terne quand même que le précédent. On n'est pas dans des couleurs nécessairement vives tout le temps, surtout quand on est dans les visions, dans ce que le commandant s'imagine qui va arriver. Hein. Il y a un petit côté sépia là, qui est appliqué. Donc, c'est ça. Toi, Eric, qu'est-ce que tu as pensé de ce numéro-là?
Ben, écoute, alors, ce qui est très drôle, c'est que je ne l'ai pas trop apprécié la première fois. Mm-hmm. Je l'ai trouvé un peu, alors t'as dit caricatural, mais je l'ai trouvé à la limite du ridicule. Et puis en le refeuilletant, finalement, je me dis que ça nous montre bien un peu l'impact psychologique que Vador peut avoir au sein de l'armée impériale, mm-hmm. Au sein de la flotte, et que effectivement, si tu n'es pas psychologiquement extrêmement fort, ben tu peux te laisser entraîner à faire vraiment des folies comme fait ce commandant dans cet épisode. Donc finalement, je l'ai trouvé avec le recul, comme quoi c'est bien des fois de faire les émissions un petit peu en décalé. Avec le recul, je l'ai quand même trouvé assez intéressant. C'est vrai que le style, j'ai un peu de mal, ça me fait penser à à des séries un peu Family Guy ou ce genre de choses qui ont un côté un peu décalé. Donc j'ai du mal à l'imaginer pleinement dans l'univers quand je regarde. Par contre, quand je replace ce qui s'est passé, ben, au final, j'ai aucun problème à m'imaginer ça dans une série télé ou même dans Rebels, par exemple, d'imaginer un personnage comme ça, ça me pose aucun problème. Donc, au final, voilà, avec le recul, un épisode plutôt appréciable. Bon, il faut dépasser le côté graphique, qui n'est pas mauvais du tout, mais qui est vraiment particulier. Mais voilà, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Et puis, c'était vraiment surprenant. Vous savez, comme tu l'as dit.
Oui, effectivement.
Franchement, on s'y attend pas, quoi. Eh bien, on va passer au troisième épisode. Donc, toujours par Denis Hopless, et puis dessiné par David Lopez et Javier Pina. Dans cet épisode, nous suivons toujours Vador et il arrive sur. Bon, je sais pas si c'est l'étoile. Oui, c'est l'étoile de la mort. Il arrive sur l'étoile de la mort.
Oui, exact. Ben, dans le fond, tu dis on suit Vador. Effectivement, ça commence avec Vador, mais tout de suite on découvre le personnage principal de l'histoire qui n'est pas Vador, qui est plutôt une infirmière, peut-être plus une adjointe, quelque chose comme ça. L'adjointe du médecin personnel, ou en chef, là, mais en tout cas qui est attitrée à Vador. Donc, cette adjointe-là a une admiration claire pour le Seigneur Noir. Et cette admiration-là, visiblement, vire en coup de foudre, en... Je sais pas comment le qualifier.
À sens unique.
À sens
c'est
unique,
un coup de foudre à sens unique.
Évidemment. Et c'est ça, on a toutes sortes de on a deux dessinateurs hein, sur cet album-là parce que on a toutes sortes de flashbacks dans lesquels là, on tombe, ben, pas de flashbacks, pardon, de visions qu'elle se fait, là, de scénarios qu'elle se fait dans sa tête. Où est-ce que là, le Seigneur Vador, hein. Ouais, des fantasmes. Donc, où est-ce qu'elle lui enlève son masque, elle l'embrasse, etc. etc. Et là, on est dans un autre style graphique, mais complètement. Hein, la coupure est nette. C'est assez efficace d'ailleurs. Mais c'est ça, elle va pousser cette folie-là jusqu'à voler, si on peut dire, ou collectionner des pièces de son armure ou des choses comme ça, là, reliées, tout ce qu'elle peut trouver qui est relié à Vador. Et c'est ça, on va... jusqu'à ce que son patron, donc le médecin en chef, là, qui on peut pas dire est très sympathique non plus, découvre ça. Et, met un terme à sa lubie. Donc, elle, en réaction à ça, va tout simplement aller s'adresser directement à Vador. Et Vador va faire un Vador de lui-même. Et on va comprendre que c'était vraiment uniquement à sens unique. Et que, bon, je vais vendre le punch, là. C'est pas très dramatique dans ce cas-ci, mais il va tout simplement l'exécuter. Donc, c'est ça l'essentiel de ce numéro-là. Donc, qui aurait cru qu'on aurait une romance, si on peut dire, ou une groupie ouais. Ouais, de Vador. Mais c'est pas mal ça. Et on voit qu'elle semble, tu sais, que c'est obsessif. Là. C'est vraiment un flirt vraiment obsessif. On le voit dans ses yeux. Là. Elle a complètement perdu le contrôle.
Ça fait penser un peu, tu sais, aux groupies, justement, qui en arrivent à s'introduire chez leur artiste, ou même pire, à essayer de leur faire des choses, voilà. Mais ce qui est bien, je trouve, c'est que Vador ne va même pas s'embarrasser d'essayer de quoi que ce soit, ni de comprendre, ni de... Il cherche pas, il s'en fout.
Ouais.
Il va l'exécuter. Il sait même pas ce qu'elle veut au fait, parce qu'au final, quand elle vient, donc on l'a pas dit, mais elle vient le voir dans ses quartiers. Donc même elle se permet de rentrer. Donc pendant qu'il est dans sa chambre de méditation hyperbare, donc il a pas le haut de son casque. Donc en plus, elle le voit décasqué. Donc je pense que ça, évidemment, pour Vador, c'est le ça doit être l'insulte. Suprême en plus, et puis donc elle lui dit, hein, voilà, elle lui révèle presque ses sentiments, puis il va l'exécuter froidement, mais en plus Vador il est obsédé par la perte de Padmé, donc pourquoi même irait-il s'intéresser à qui que ce soit d'autre, Donc c'est assez correct. Après, t'as essentiellement tout dit quand même, puisque voilà, le côté des visions est quand même hyper sympa, parce qu'elle elle part vraiment très très loin. Mm-hmm. Parce qu'à même à un moment donné, elle s'imagine avoir la force et tout, et puis tuer son patron, le médecin.
Ouais, c'est ça. Elle s'imagine être l'élève, le Sith de la
C'est ça. Donc, en plus d'être sa maîtresse, son amoureuse, elle voudrait être son élève, sa padawan. Donc, voilà. Et après, ce que du côté scénaristique, on a un petit truc sympa, puisque qu'on n'avait jamais vu, puisqu'on a... Voilà, on a le médecin qui va réparer... alors, c'est ce médecin-là, mais on peut évidemment imaginer que ça ne va pas être celui-là qui va le suivre tout le temps, puisque celui-là va mourir dans la destruction probablement de l'étoile de la mort. Mm-hmm. Mais on a voilà, l'explication que, effectivement, Vador, ça lui arrive d'avoir des problèmes et des pièces cassées ou des retours de bataille où il a besoin de se faire réparer, comme on l'a vu dans d'autres séries de comics. Et bien voilà, on a ce petit élément scénaristique qui nous est amené ici, et je trouve que c'était intéressant. Parce que, pareil, ça s'inscrit bien au sein du reste. Finalement, ce qui s'inscrit plus difficilement, c'est cette groupie qu'on a du mal à imaginer errant dans les couloirs à sa suite. Je veux dire, je sais pas, ça se passe, je sais pas, entre Rogue One et dans les quelques heures qui peuvent séparer peut-être Rogue One et Un Nouvel Espoir, bah, j'ai du mal quand même à l'imaginer errant dans les couloirs et essayer de choper Vador. Mais finalement, pourquoi pas, c'est pas non plus incohérent, quoi. Mais c'est vrai que dans cet épisode, j'avais quand même une grosse impression un peu de what if, de trucs en dehors de la continuité. C'est peut-être celui qui m'a fait le plus penser à...
Ben moi, il y avait juste l'aspect de l'étoile noire, la première étoile, on parle ici de la première étoile de la mort. Comme tu dis, ça peut... j'ai l'impression que ça peut pas être entre Rogue One et Un Nouvel Espoir, parce qu'il y a tellement peu de temps entre les deux là, que je pense pas que Vador ait fait plein de batailles différentes... Et aller se faire réparer à l'étoile de la mort.
Oui, non,
c'est donc vrai. Peut-être un peu avant. Bon, évidemment, c'est vrai que la structure était prête depuis longtemps. C'est vraiment juste le laser là, qui fonctionnait pas. Mais en tout cas, on est avant Rogue One.
Si on cherche la petite bête Francis, ouais. On voit la coupole se faire poser dans Rogue One.
Oui, effectivement. Mais ça, à chaque fois que j'entends ça...
Déjà là.
À chaque fois que j'entends ça, je me dis peut-être que c'est amovible. Ils peuvent l'enlever, la remettre, faire des réglages.
Non, mais après, oui, ce que tu dis n'est pas faux, c'est-à-dire qu'il pouvait très bien y avoir un dysfonctionnement sur la première, la première fois où elle était installée, et puis ultérieurement, elle a été remplacée. Ça, pourquoi pas?
Exact. Moi, ce que je mentionnerais, ben, tu l'as dit vite, là, on a Vador sans casque, mais ça aussi, je crois pas qu'on l'avait vu dans un autre médium que le Retour des Jedi. Jusqu'ici, donc j'ai trouvé ça intéressant de trouver Anakin. Bon, c'est Vador, là, mais je veux dire, Vador sans casque et on a son regard.
Alors, on n'a pas totalement Vador décasqué dans d'autres médiums. Mm-hmm. Donc, c'était dans l'Empire Contre-Attaque. Mais, on l'avait. Oui, mais de dos dans l'Empire Contre-Attaque et complètement face, lui, dans le Retour du Jedi. Mais tu as. Dans les comics, quand même, il a été plusieurs fois amoché. Je me demande même si dans les comics, il n'y a pas un moment donné où il a complètement le casque détruit. Et puis sinon, il y a par exemple l'exemple de Rebels où il a tout un fragment du casque contre Ahsoka qui est explosé et où tu vois effectivement aussi son regard et en même temps où on entend sa voix non transformée.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, j'ai trouvé quand même, on parlait de surprise avec l'autre numéro d'avant, celle-là, ça aussi, c'est venu me surprendre complètement, je ne m'attendais pas à ça.
Ouais.
Sinon, j'ai trouvé que l'artiste avait très bien rendu la folie quand on regarde la pauvre fille. Là. Elle est bonne à enfermer. Là.
Ouais. Se demander ce qu'ils ont fait les recruteurs de l'Empire, s'il n'y a pas quand même des études psychologiques avant de sur l'étoile de la mort.
C'est sûr que là, c'est quand même une simple assistante du médecin, mais médecin qui la traite mal hein, aussi. Et. On l'a pas mentionné, mais dans son petit côté, pourquoi elle admet aussi Vador, c'est que Vador, le médecin, son patron, la traite très mal, et Vador traite assez mal le médecin aussi, donc là, il se trouve à être un peu son sauveur, ou tu sais, elle l'admet un peu pour ça. Là.
Oui, elle pense qu'en fait, presque, il le châtie parce qu'il lui fait du mal, mais en fait, pas du tout. Voilà, pas du tout. Alors, moi, je dois quand même dire que c'était mon épisode préféré des 5.
Ok, ok.
Voilà, parce que cette surprise... Alors pourtant, moi je l'avais feuilleté en VO, mm-hmm. et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, c'est une catastrophe. Et au final, après la lecture, en ayant bien compris vraiment tous les... parce que je ne suis pas forcément à l'aise avec l'anglais, mais en ayant bien tout placé, bien tout compris, voilà, j'ai vraiment été bien surpris et c'était assez plaisant. Mais effectivement, je le vois quand même plus comme quelque chose hors continuité. Voilà. Même si, bon, il n'y a rien dans cet épisode qui laisse penser qu'il ne puisse pas l'être, finalement. Donc voilà. Je lui fais un petit délit de faciès, finalement. On enchaîne avec l'épisode suivant, donc, qui sera cette fois-ci dessiné par Stephen Mooney et toujours donc, scénarisé par Denis Hopless. Donc là, on va suivre une équipe de rebelles, Francis.
Donc oui, la tête brûlée, ici on suit un groupe de rebelles, de pilotes rebelles qui se retrouvent à affronter Vador en combat aérien. Dans le fond, le hotshot du groupe, comment qu'on pourrait traduire le hotshot? Eux, ils ont traduit ça par la tête brûlée. Je sais pas si ça correspond bien. Mais bref, c'est le Tom Cruise de Top Gun de l'histoire.
Et... le téméraire.
Exact. En fait, je pense que Hotshot, c'était le titre de la parodie de Top Gun dans les années 90.
Oui, oui, tout à fait.
Fait que c'est le Charlie Sheen de l'histoire. Pour revenir à l'histoire, justement, on voit... évidemment, là, on a... C'est le... Comment dire? C'est le personnage un petit peu... pas désabusé, mais bref, au-dessus de ses affaires, etc. Mais, ils vont en faire plusieurs combats jusqu'à ce qu'ils se retrouvent justement en combat aérien face à Vador. Et, vous imaginez bien que Vador va faire le ménage parmi cette escadrille. Le pilote en question va voir tous ses amis proches mourir en quelques secondes. Donc, ça va vraiment le traumatiser. Et lorsqu'il aurait l'occasion, il aurait parfaitement Vador dans son viseur. Va pas saisir l'occasion, bon, on peut supposer que Vador l'aurait évité d'une façon quelconque, mais il ne va même pas saisir l'occasion, va tout simplement fuir, là, parce qu'il est complètement traumatisé, et bon, ben, c'est quoi le résultat? C'est que Vador va le suivre jusqu'à son vaisseau amiral, et va arriver avec l'Empire pour décimer la totalité de sa... je sais plus si c'est son vaisseau ou sa flotte complètement, s'il y avait plusieurs vaisseaux. Mais c'est ça, donc le Hotshot non seulement était pas à la mesure, était pas au niveau de sa réputation, mais en plus il va causer la mort de la totalité de son vaisseau. Qu'est-ce que t'as pensé de ce numéro-là, Loïc?
Eh bien écoute, c'est une petite histoire sympa, mais qui m'a pas extrêmement passionné. Mm-hmm. Je dois dire que c'est pas celle qui est... comment dire ? C'est pas celle qui décrit le mieux l'impact que peut avoir Vador sur les citoyens de la galaxie. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, j'imagine quand même que pour les rebelles et toute la flotte rebelle, forcément, Dark Vador, c'est rien que de prononcer le nom, c'est un peu leur Voldemort, quoi. Mm-hmm. Je les vois pas se dire oh oui, Vador, on va la voir ou machin. Même si forcément certains y croient. Donc au final, je trouve que c'est peut-être celui qui a le moins d'impact. Qui est le plus gentillé dans l'exécution.
Ouais.
Maintenant, c'est correctement dessiné quand même, voilà, sans plus, mais c'est vraiment sympa. Donc, il y a de très belles couleurs, ça reste assez dynamique pour des batailles spatiales qui sont bien dessinées, parce que c'est pas toujours le cas, donc il faut le noter.
C'est vrai.
J'avoue que j'avais un peu de peine quand même pour ce pilote. Il est quand même attachant, et au final, il va avoir ce poids sur la conscience, il n'aura pas le temps en fait de le ronger de l'intérieur puisque finalement ils vont tous mourir, mais il portera quand même en lui la culpabilité d'avoir causé la mort de tous ses collègues. Mmh. Alors en fait c'est un outpost complètement, donc c'est une base rebelle, c'est une petite base rebelle qui va être décimée, donc dans laquelle il y a probablement un ou deux escadrons de chasseurs puisqu'on voit à un moment donné dans le hangar il y a un moteur d'Y-Wing, donc il y a peut-être deux escadrons quand même de chasseurs, mais bon, ça reste quand même limité en termes d'impact, je pense, pour la flotte rebelle dans son ensemble. Mais voilà, bon, finalement, il n'y a pas tant de choses à en dire. On a la visite d'un ministre impérial, quand même, pour les petites choses qui sont pas communes. qui vient faire sa petite visite de routine. Sur cette planche où arrive le ministre, alors je dis, c'est bizarre que ce soit un ministre parce qu'au final, il a le costume d'un officier avec des barrettes qui ne le distinguent pas. Donc je trouve, j'ai trouvé ça surprenant d'en faire un ministre parce que j'imagine que les ministres ne devraient pas forcément être des militaires ou que s'ils sont des militaires, ils devraient avoir vraiment un rang très spécifique. Par contre, il y a sur cette page une planche avec Vador qui se tient devant son TIE Advance et qui tend la main vers le chasseur. Donc, alors peut-être que pour les plus observateurs d'entre nous, ça aura parlé, puisque je me souviens d'un dessin de Benjamin Carré, qui est un artiste qui a beaucoup œuvré sur le Star Wars pendant le Légende, et qui avait sorti un dessin de cet acabit, mais bon, bien sûr pas fait de manière aussi succincte, mais vraiment très très travaillé, voire photoréaliste, et qui était vraiment de toute beauté. Je me souviens à l'époque, c'était vraiment magnifique, Vador qui contemple son vaisseau comme s'il s'agissait de son nouveau bébé. Et là, on retrouve cette idée. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire de la part de l'artiste ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'a touché. Cette case-là m'a touché. Mm-hmm. Voilà.
Ouais, donc, la ressemblance vraiment, est frappante quand même.
Ouais, la ressemblance est frappante. Donc, voilà, un petit épisode sans prétention, mais correct.
Ouais, moi aussi, ce ne sera pas mon préféré. Ce sera probablement le pire, je dirais, de la série. Moi, je mettrais surtout la faute sur. L'aspect des pilotes rebelles que j'ai trouvé moyennement crédible, même si j'ai bien aimé le design. Il y en a une sur certaines cases, on croirait voir Charlize Theron comme Furiosa dans Mad Max, le plus récent Mad Max, avec une espèce de tatouage de cheveux là, en forme de phénix rebelle. Mais ça s'étire leur longue discussion, donc c'est ça, ceux qui ont de l'expérience essaient de lui faire comprendre que. À lui tout seul, c'est un travail d'équipe, être pilote de chasse, donc, etc. Fait que non, c'est ça, l'intérêt n'était pas vraiment là. Et comme tout se passe vraiment en un instant, parce que j'ai l'impression que le but était de montrer que du côté des rebelles aussi, Vador a un impact psychologique énorme, mais c'est raté, malheureusement, parce que cet impact-là se produit en une fraction de seconde où est-ce qu'il perd tous ses camarades. Et bon, là, il se sauve et après, tu sais, c'est ça, il n'y a pas le temps d'avoir cet impact psychologique-là.
Non, il n'y a pas.
Tu sais, on aurait pu, par exemple, voir un des survivants de l'attaque de Vador dans Rogue One, à la fin de Rogue One. Donc, un de ceux qui a réussi.
Ou de multiples attaques, par exemple. On peut très bien imaginer que Vador soit à la recherche, j'en sais rien, d'une flotte rebelle spécifique. Et qui va donc au fur et à mesure décimer, mais que lui à chaque fois est survivant et qui devient complètement prostré au fur et à mesure. Ça aurait peut-être eu effectivement un impact plus fort et ça aurait été plus intéressant.
Donc c'est ça, une petite déception pour ce numéro-là.
Bon, et ben on passe au dernier épisode de ce volume, donc toujours par Denis Soples et avec Geraldo Borges au dessin. Et là, on va retrouver Vador accompagné de ses Stormtroopers sur une planète quelconque. Francis, que recherche-t-il sur cette planète?
Ben, avant de parler de ce qu'il recherche, justement, je mentionnerai la couverture de celui-là. On n'a pas parlé des autres couvertures, ben, à part la première, hein, peut-être, le fameux Vador sur un cheval noir avec un bouclier. Les autres, c'était relativement commun. Hein. On aurait pu voir ça sur une série comme Star Wars. Cette fois-ci, on est dans un style kaléidoscope, là... que j'ai trouvé qui fitait parfaitement avec ce qu'on va voir dans ce numéro-là. Très coloré et très très réussi à mon goût. Donc ici, on a un Vador qui poursuit, qui est sur une planète, encore une fois, un peu jungle. On a carrément, au départ, on a une plante carnivore qui essaie de l'attraper. Là, on se croirait dans Mario Bros. version horreur. Là. Si vous avez déjà vu des dessins style horrifique de Mario Bros, là,
c'est même pas lui qui est attaqué, c'est son soldat.
Ouais.
Et il va, c'est plus qu'un soldat parce que c'est un commandant. Et il va le sauver.
Mais bref, c'est ça. Vador est à la poursuite d'un un rebelle qui est en fuite justement avec une espèce d'appareil, si je ne me trompe pas, c'était des plans d'un Star Destroyer ou quelque chose comme ça. C'est un appareil qui allait lui permettre de pister les rebelles. Donc évidemment dans sa fameuse mission de détruire la rébellion. Et c'est ça, se retrouve sur cette planète-là. On a le droit à une cantina, celui qui est en possession, le rebelle qui est en possession de l'appareil, donc apprend relativement vite là, que qu'il est poursuivi. Et va se mettre justement à complètement... Ben, évidemment, il y a Vador et sa troupe là, qui débarquent et qui font un carnage, et c'est le cas de le dire. Hein. C'est vraiment l'épisode peut-être le plus horrifique. Mais c'est ça, le rebelle qui sort va se mettre de plus en plus à halluciner et de façon de plus en plus intense. Donc, quand je disais tantôt le côté psychédélique de cet épisode-là. Et il va se sauver de la cantina vers la jungle. Comme on disait tantôt, on parle de plantes carnivores, de plantes comment dire, pleines d'épines et compagnie. Il va se mettre à halluciner des fantômes, des dragons, donc à tirer un peu partout dans le vide. Il y en a une, c'est ça. On va voir le sabre de Vador qui est, c'est comme s'il était un dragon chinois, là, ouais, un serpent. Ouais. Donc, c'est vraiment un peu le délire du point de vue visuel, mais c'est réussi, c'est quand même très bien fait. Et tout ça pour dire, au côté histoire, qu'il va finir par se réfugier dans une espèce de... Au Québec, on dirait un shack, donc un espèce de chalet là, en bois rond, dans la forêt, une cabane. Ou est-ce que, histoire d'accentuer le côté horrifique, il y a des têtes d'animaux, mais là, nous, on dirait des monstres, probablement des animaux locaux à côté. Accroché après le en haut du foyer, on va dire.
Des têtes de chasse, enfin de...
Des trophées de chasse, ouais. Et, mais évidemment, ils ont toutes des têtes de monstres. Et puis, lui continue dans son hallucination là, assez intense. Puis, dans le fond, ça va tout simplement se terminer qu'il va se retrouver à même lancer des grenades à des compagnies. Mais quand Vador va arriver jusqu'à lui, on a droit justement, évidemment... pas à un Vador traditionnel au niveau visuel, c'est un monstre. C'est un monstre version Vador. Il va tout simplement lui lancer l'appareil directement sur le torse de Vador, tu sais, prends-le, puis laisse-moi tranquille. Et Vador va, je sais pas si... je suis pas sûr qu'on pourrait appeler ça de la pitié, parce que je pense pas que Vador ait de la quelconque pitié.
Non.
Mais je crois qu'il a vu que le gars était tellement affecté est détruit, qu'il tue même pas, il s'en va puis il l'abandonne à son sort.
Donc, ben justement, c'est vraiment peut-être le point qui m'a un peu le plus dérangé dans cet épisode.
Mm-hmm.
Alors, il y a deux points principaux, mais Vador vient de traverser la galaxie pour trouver un rebelle qui lui a piqué les plans d'un traceur de vaisseau. Il le poursuit sur toute la planète et tout ça, et puis... il le laisserait vivant, c'est un peu... moi, je trouve que c'est pas du tout le caractère de Vador. En tout cas, en plus, c'est vraiment contradictoire avec ce qui nous a été montré dans les épisodes qu'on vient de chroniquer.
Ben, moi, je me suis dit que... On voit juste Vador sortir de la cabane. Donc, je me suis dit qu'il y a rien qui empêche qu'après, il envoie sa troupe là, capturer le gars pour interrogation, des choses comme ça. Tu sais, le récupérer, mais...
C'est vrai qu'on le laisse, il n'est pas mort, il est prostré, il est terrifié par ce qu'il vient de voir. Donc, mais tu as raison, oui, il pourrait très bien dire aller finir le travail. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Donc, par contre, la deuxième chose qui m'a beaucoup embêté, c'est justement le côté psychédélique, les visions, comme si effectivement il était camé. Au bout d'un moment qu'il avait je sais pas qu'il avait pris de la drogue donc là tu peut-être interpréter qu'il s'est fait toucher par les plantes,
la fuite sur le LSD.
Oui, voilà, moi ça m'a quand même dérangé. Je suis pas très fanat de ce genre de choses habituellement, et dans l'univers Star Wars encore moins. Bon, maintenant il est quand même fort probable que d'ici je sais pas 15 jours j'oublie totalement l'existence de cet épisode, donc voilà, j'en serais pas non plus traumatisé.
C'est ça dérangera pas ta compréhension de la saga.
Non, pas dans son ensemble.
Moi, à l'inverse, tu vois, j'ai trouvé que pour clore la série, c'était une bonne conclusion. Déjà, visuellement, j'ai trouvé ça original. L'aspect, justement, psychédélique, hallucination, parce qu'au début du numéro, tout est normal, et c'est ça, plus le numéro avance, plus ça devient fou un peu. Côté visuel, j'ai beaucoup aimé le style de dessin là, de Gerardo Borg, Borge. Et non, au niveau colorimétrie aussi, c'est sur certaines planches, on va être sur certaines des teintes de bleu, d'autres, quand on est dans la jungle, tout ça, dans le vert, et évidemment, quand il y a Vador, tout ça, on va être dans le rouge. Non, c'est ça, j'ai quand même beaucoup aimé au niveau divertissement là, pour les yeux. Bon, évidemment, le scénario, ça revient à ce que je disais au début, hein, dans un one-shot, on va dire, on peut pas élaborer non plus énormément. Mais j'ai trouvé ça, en tout cas, beaucoup mieux que le précédent. Non, c'est ça. Celui-là, je dirais que je le conseille quand même, juste en termes visuels. Pour les yeux, je trouve que il valait la lecture.
Ouais. Bon. Après, je trouve que c'est pas le plus efficace non plus niveau visuel. Il m'a pas semblé extrêmement maîtrisé. Enfin, il y a pas quelque chose de foufou dans cette dans cet épisode. Clairement, pour moi, c'est vraiment celui qui est le plus en dessous des 5 du volume. Donc, voilà. On va peut-être pouvoir donner notre note sur tous ces épisodes. Donc, moi, j'irai d'un bon et à la fois d'un petit 12. Parce que, comme tu dis souvent, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas dérangé. Donc, qui sont sympas. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment les épisodes. Est-ce qu'il y a un niveau de relecture important? Je suis pas convaincu. Voilà, c'est pas les épisodes sur lesquels tu as envie de revenir, de relire pour la compréhension de la saga ou autre. Peut-être l'épisode que j'ai bien apprécié avec la groupie. Mais voilà, globalement, c'est des épisodes qui vont rester un peu au fond du carton.
Ben écoute, moi de mon côté, j'ai essayé de faire abstraction de, comment dire, de mon impression quand c'est sorti, puis je l'avais dit dans d'autres émissions, hein, mais c'est qu'il y avait énormément de contenu sur Vador à ce moment-là. Il y avait vraiment trop, je trouve, de contenu sur Vador qui sortait, même si je comprends tout à fait l'aspect marketing, dès qu'on met Vador sur une couverture, ça se vend. Mais c'est ça, ça a commencé ou ça juste après ou en même temps aussi que Target Vader, donc cible Vador. Je sais que c'est des styles complètement différents. Et évidemment, on avait la série Darth Vader qui s'était terminée peu de temps avant. Donc, il y avait cet aspect-là. Sinon, ben, j'ai mentionné en début d'épisode l'histoire avec Chuck Wendig. Donc, j'ai l'impression que c'est... Moi, à la lecture de tout ça, j'ai trouvé que ça sentait la mauvaise bonne idée. Tu sais, quand on dit là, dans une réunion d'équipe là, autour d'une table, on pourrait faire ça. Sur le coup, ça a l'air d'une bonne idée. Mais quand tu travailles un peu le concept, finalement, c'était pas une bonne idée. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé avec ça. Que les scénaristes ont peut-être manqué un petit peu de... Bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur ce concept-là? Donc, en tout cas, à mon avis, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à bien exploiter l'idée. Puis peut-être que Chuck Wendig, justement, lui, avait beaucoup plus d'idées à la base.
Il y avait aussi un aspect différent qui n'est pas traité là, mais qu'on retrouve parfois dans les romans, c'est que ils auraient pu utiliser cet aspect-là plus tôt, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la galaxie, même qui, à ce moment-là, ne croient pas forcément à l'existence de Vador.
Exact.
Puisque voilà, ils savent pas qui c'est, ils l'ont jamais entendu parler. L'armée impériale finalement fonctionne aussi bien sans lui. Donc ça aurait pu être aussi un aspect intéressant.
Ouais, tout à fait, autant côté citoyen que même le soldat impérial de base, là, il n'aura jamais vu Vador de sa vie. Là.
Non, donc, c'est clair.
Un peu à la Han Solo qui croit pas du tout aux histoires de Jedi hein, au début de l'épisode 4.
Ou tu pourrais aussi avoir à l'inverse des personnages qui ont entendu parler de Vador sans jamais l'avoir vu, mais un peu en sorte de légende urbaine, finalement.
Ouais,
je
ne
sais pas trop s'il existe, mais en même temps, s'il existe, bah, j'aimerais pas le rencontrer parce qu'il est comme ci, il est comme ça. Donc, quand même, je pense qu'autour du concept, il y a des choses quand même assez intéressantes. Après, je n'ai pas la prétention de dire que j'arriverai à scénariser, surtout sur des épisodes de 24 pages, parce que là, on n'a pas 5 mini-série de 5 épisodes, on a juste 5 one-shots.
Exact. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, malgré toutes mes critiques, puis surtout mon appréhension, puis je n'aimais pas le concept, malgré ça, je trouve qu'ils s'en sont sortis pas trop mal avec la commande, et que pour les yeux, entre autres, j'ai bien aimé, j'ai eu plusieurs petites surprises, comme on a mentionné. Mais tu vois, moi, je donne quand même un 14 sur 20 qui est quand même pas mauvais. Donc évidemment, ce ne sera pas le haut du panier. C'est pas le volume à conseiller à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics Star Wars.
Ah non, c'est sûr.
C'est pour les complétistes. Oui. Mais entre ça, puis par exemple des séries là, à l'ère de la République, là,
j'allais le dire.
Je préfère quand même Vador Sombre Vision. Donc c'est ça. Pour les habitués des comics Star Wars, je trouve que au moins pour les yeux, ça valait le détour.
Donc, ben voilà, écoute, on va tout de suite quitter l'hyperespace, on va se poser sur notre petit spatioport, et puis on va reprendre nos vaisseaux respectifs. Tu vas repartir sur Hoth et moi sur Takodana. Voilà Francis, avant de se quitter, j'avais envie qu'on ait une petite discussion autour de Star Wars, comme on a fait lors de la dernière émission. Moi j'avais envie de partager mon avis, puisque j'ai enfin fini le roman Ahsoka, donc on peut quand même noter qu'il est sorti il y a déjà un moment, je crois que c'était en juillet maintenant.
Ouais, mi-juillet je crois.
Je crois, et qu'on est seulement en octobre. Et parce que je suis embêté parce que j'ai pas été déçu par la lecture de ce roman, mais en même temps j'ai pas été passionné. C'est-à-dire que pour un roman que j'attendais depuis très longtemps, je m'attendais à ressentir un peu plus d'émotion.
Ouais.
Maintenant,
j'allais dire c'était le risque avec l'attente qu'on a mis en version française.
Parce que voilà. Alors. C'est que quand on attend quelque chose, on a plus de risques d'être déçu. Maintenant, j'ai retrouvé quand même une ambiance qui m'a fait rappeler les épisodes qui lui étaient consacrés dans la saison 7 de Clone Wars avec les Sœurs Martez. Je trouve qu'on avait une dynamique similaire. Alors peut-être que ça fonctionnait mieux sur moi en version animée qu'en version à l'écrit. Par contre, j'ai beaucoup apprécié la deuxième partie dès qu'elle est retrouvée par Bail Organa. Là, je trouve que ça fonctionne et qu'on retrouve une vraie dynamique avec un vrai but pour le personnage qui est motivant tant pour elle que pour le lecteur. Donc finalement, je suis content d'avoir fini ce livre quand même. C'est un livre qui vraiment peut se lire très bien pour n'importe quelle personne, et je pense notamment aux enfants, puisque ça, on rappelle que c'était à la base un roman jeune adulte.
Ouais.
C'est vraiment un livre que je me vois conseiller à des gamins qui apprécient le personnage ou qui ont lu Clone Wars, qui ont vu Clone Wars et qui auraient envie d'aller un peu plus loin, parce que ça se lit bien quand même, voilà, c'est très bien écrit.
C'est assez rapide.
Oui. Le méchant est un peu décevant quand même, mais l'inquisiteur qu'on ne connaissait pas, mais j'étais quand même content de voir un nouvel inquisiteur. Ça fait grandir un peu la famille des inquisiteurs. On pourra toujours avoir des surprises autour de ces personnages.
Ben moi, tu vois, t'as pas tort, et je vais sûrement le relire en français là, maintenant que je le lis en version française. Mais par rapport aux inquisiteurs, justement. J'ai l'impression que je vais peut-être plus l'apprécier à ma lecture cette fois-ci que quand je l'avais écouté en VO à sa sortie. Parce que le concept des Inquisiteurs a été grandement amélioré grâce à Charles Soule avec la série Le Seigneur Noir des Sith et avec le jeu Fallen Order.
Ah bah Fallen Order, complètement.
Tandis que moi, les Inquisiteurs dans la série Rebels... Je trouvais que c'était nul. Je détestais le concept. Je trouvais que c'était
vraiment un concept. Ah ben le concept de l'hélicoptère, c'était.
Ah bon, ça c'était absurde.
Ouais, ça c'était absurde. Voilà. Mais je me souviens que sur ce concept d'inquisiteur, j'avais été très très surpris au début en se disant, bah attends, ils nous ont fait tout un foie autour des Sith en nous disant il devait en avoir que deux machin, et puis on tue tous les Jedi, et puis là finalement il y a X utilisateurs de la Force. Mais ça fonctionne bien. Surtout que c'est sur une période donnée, donc ça va se gérer tout seul au final, et c'est pas incohérent, et ça fonctionne bien. Et j'ai toujours mon petit rêve quand même, c'est de retrouver Barry Sophie en inquisitrice.
Ouais.
parce que on a vraiment un personnage, je trouve, qui a du potentiel et qui serait vraiment, vraiment sympa à ce moment-là.
Ben, mais les gens qui nous écouteraient et qui n'auraient pas pris là, ni l'histoire de Fallen Order ni les BD de Charles Soule, je leur conseillerais parce que, effectivement, si on se limite à Rebels, c'était vraiment un concept, encore une fois, pour vendre des figurines puis des sabres laser Hasbro là, en plastique.
Mmh. Oui, bien sûr.
C'est, comme tu dis, ça s'inscrivait à ce moment-là, ça s'inscrivait étrangement, mais c'est ça, toute la construction de Charles Soule, je trouve, est venue légitimiser. Légitimer ce concept-là. Donc, non, c'est ça. Je vais le relire à Soka, mais je sais pas si je vais être le premier de toute façon chez moi, parce que je sais que et ma femme et ma fille attendaient.
Qui veulent le lire.
Ouais, qui, c'est un ouais. personnage, évidemment, qu'ils ont beaucoup aimé. Hein.
Oui.
Mais moi-même, j'avais été un petit peu déçu à sa sortie. Comme tu dis, jusqu'à ce que Bail Organa. Arrive dans le décor, ou en tout cas ses soldats au début, là. Et là, on est en train de complètement spoiler pour les gens qui l'ont pas lu.
Ah, mais c'est vrai, oui, oui, ben oui. Mais bon,
on s'en excuse.
Il est sorti au mois de juillet.
Ouais, en français, puis il y a 4 ans en anglais, donc. Mais c'est ce que je disais tantôt, c'était le risque hein, avec ce livre-là. Il a tellement été retardé en version française que les gens l'attendaient et s'en faisaient toute une histoire. Alors que c'était un livre jeune adulte et oui, il y a eu des étoiles perdues dans le jeune adulte. Il y a eu des Most Wanted, là, c'était Mort ou Vif, je pense, en français.
Oui.
Mais c'est ça, celui-là, je trouve, était pas de ce calibre-là. Mais t'as raison, c'est quand même assez rapide, assez agréable. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose qui va rester, là, puis qu'on va dire « Ah oui, dans le roman Ahsoka ». Puis tu sais, c'est pas quelque chose non plus dans lequel il y a beaucoup de construction. Je me souviens quand j'ai fait l'année dernière la capsule Star Wars 101 sur Ahsoka. Là, des gens se sont dit « Est-ce que je viens de me faire complètement spoiler le livre Ahsoka? » Ben, j'ai répondu « Écoute, il se passe pas grand-chose dans ce livre-là. »
Non, non,
tu t'es pas fait spoiler grand-chose. Tout ce qui se passe, on peut le dire maintenant, c'est que c'est le contact justement avec la rébellion, avec l'organisation de Bail Organa. Et on le sait ça de toute façon. Qu'elle va le rejoindre, oui, parce que quand on la retrouve dans Rebels, elle est avec...
Elle est déjà.
Elle est même présentée par Bail Organa. Bail Organa est en hologramme, puis l'hologramme disparaît et c'est Ahsoka qui arrive. Donc, c'est ça en termes de spoilers. Il n'y a pas grand-chose à spoiler.
Non, mais justement, j'ai regardé, après avoir fini le roman, j'ai regardé Le Siège de Lothal, justement, l'épisode qui était le double épisode de la saison 2, je crois. L'ouverture de la saison 2,
il me semble.
Et c'est dans celui-ci, on retrouve Vador, justement, qui informe l'empereur à la fin que l'apprenti d'Anakin Skywalker est toujours vivante. Et du coup, j'ai enchaîné avec la scène finale de Clone Wars, et j'ai l'impression que ça s'insère vraiment très très bien, c'est-à-dire qu'il apprend donc via le fait qu'elle s'appelle Fulcrum, je crois, mais parce qu'il la voit pas à ce moment-là. Il la voit qu'à la fin de la saison 2. Donc il fait le lien entre le Fulcrum, qui était son code qu'elle utilisait déjà pendant la guerre des clones. Il se dit ah ben ça c'est Ahsoka, et du coup je me dis que c'est à cette occasion qu'il va rechercher dans les archives probablement. De l'Ordre 66, qui s'est passé avec Ahsoka et ce qui va l'amener sur la planète où elle s'est crashée avec le vaisseau pour vérifier, peut-être, ou pour se donner une raison que, effectivement, c'était bien elle, ou au contraire, qui aurait permis d'infirmer son impression, quoi. En tout cas, voilà, moi je trouve que dans cet enchaînement, il y a une vraie logique qui se construit. Après, c'est ma logique à moi, peut-être que j'ai faux, peut-être que j'ai tort, on sait toujours pas quand se passe cette scène. Mais en tout cas, moi, ça me semble assez cohérent.
Exactement. On conseille cette lecture-là.
Ouais, voilà. Est-ce que Francis, t'as quelque chose à nous partager?
Pas spécialement. Dans le fond, moi, j'étais sur la... Je suis dans les derniers petits détails d'ajustement là, du fameux projet littéraire que certains ont entendu parler. Donc, l'espèce de recueil de nouvelles jamais publiées en français de Star Wars. Donc, les gens ont demandé à pouvoir se le commander aussi. Et en plus, il est sorti deux nouvelles supplémentaires à la fin de l'été du côté des Crowfuckers oubliés, si je ne me trompe pas. Donc, évidemment, j'en profite pour les ajouter. Donc, c'est ça, sous peu, là, les gens qui ont vu passer ça sur les internets, vous allez pouvoir commander votre propre copie de ce recueil de nouvelles Star Wars. Et je précise encore une fois que c'est complètement à but non lucratif. Hein, y a aucun, c'est toutes des choses qui sont déjà disponibles sur Internet. Dans le fond, c'est, je vous offre juste une offre de... une option d'impression. C'est toutes des choses que vous pourriez imprimer sur votre imprimante maison, là, sur du papier classique. Tandis que là, bon, ben, ça va être un petit peu plus beau que ça dans votre bibliothèque. Avec une, ça revient vraiment à être un recueil comme n'importe quel autre livre de Star Wars. En termes de format, par contre, là, comme je disais dans la vidéo, ceux qui ont vu ça, c'est plus au format qu'on avait chez PKJ, donc qu'on avait pour les Young Adults. J'ai pas rien trouvé là, d'option... d'imprimeur qui permettait de faire quelque chose vraiment au format pocket, là. Malheureusement. Mais c'est ça. Donc je suis à finaliser les derniers détails et les gens devraient en entendre parler très prochainement.
Eh bien ça, c'est une excellente nouvelle. Donc écoute, pour tous ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de... qui voudraient de plus amples informations, donc on les invite à, à t'envoyer un petit message sur Facebook... pour avoir toutes les infos qu'il faudrait sur le Discord, voilà. Donc voilà qui va conclure donc cette émission de Star Wars en direct. Donc merci à toi Francis. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter donc via tous nos réseaux sociaux, via notre site internet. Partagez nos émissions, aidez-nous, faites-nous de la pub. On a besoin de faire grandir notre communauté. Vous êtes là depuis le début et je suis sûr qu'il y a plein de monde encore qui serait passionné à écouter les émissions de Star Wars en direct. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc allez-y, faites-nous connaître. Merci à nos partenaires et au nom de Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.